Bonsoir et bienvenue, 20h à Paris, vous êtes bien sur RFI.
Mathis Limano.
Et 21h à Tel Aviv, la garante de la démocratie en Israël en passe d'être limogée. Le gouvernement a engagé ce dimanche le processus de destitution de la procureure générale. Elle avait notamment diligenté une enquête sur les liens entre le premier ministre Netanyahou et le Qatar. La magistrate reproche au gouvernement de vouloir être au-dessus des lois. Le maire d'Istanbul, placé en détention et démis de ses fonctions, Ekrem İmamoğlu, dénonce une exécution sans procès. Le principal rival du président Erdogan a été arrêté mercredi dernier, déclenchant des manifestations massives partout dans le pays. Près d'un demi-million de personnes attendues jusqu'à la fin du mois à Mexico. Elles viennent assister à une série de concerts de la star colombienne Shakira, des retombées économiques estimées, vous l'entendrez, à 160 millions de dollars. Et puis ils ne devront pas trembler ce soir. Les bleus de l'équipe de France de football reçoivent la Croatie. Battue 2-0 à l'aller, la victoire est obligatoire s'ils veulent espérer continuer leur aventure en Ligue des Nations. On est en direct du Stade de France en fin d'édition. La procureure générale d'Israël en passe d'être limogée. Ce dimanche, le gouvernement a engagé un processus de destitution. Cela pourrait prendre plusieurs mois. L'opposition israélienne dénonce un signal très inquiétant envoyé par l'exécutif et parle de la fin de la démocratie dans le pays. Michel Paul est à Jérusalem pour RFI.
Première étape, une motion de défiance. Les ministres israéliens ont voté à l'unanimité le début de la procédure de destitution de la procureure générale. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui présidait la séance, a vivement déploré que Gali Barav Miara n'ait pas assisté à cette réunion ni envoyé de représentants. C'est une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres, a-t-il déclaré. La conseillère juridique du gouvernement, c'est son titre officiel, dans une lettre cinglante au ministre, accuse le gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi et agir sans contrôle ni équilibre. Elle qualifie cette réunion du gouvernement portant sur sa propre destitution de « dépourvue de validité juridique ». L'objectif réel de la procédure, ajoute-t-elle, est de fermer les yeux sur des actions illégales prises par le gouvernement. Le cabinet israélien s'est réuni en l'absence du chef du gouvernement. Benjamin Netanyahou est en conflit d'intérêts pour cette procédure en raison de son procès pour fraude, abus de confiance et corruption. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Gali Barav Miara avait ordonné une enquête contre le chef du gouvernement en cause, ses liens supposés avec le Qatar, principal financeur du Hamas et médiateur clé dans le conflit. Cette procédure de destitution intervient quelques jours après le limogeage du directeur du Shin Bet, les renseignements intérieurs en Israël, décision qui avait provoqué d'importantes manifestations. Le cap des 50 000 victimes franchies dans la bande de Gaza, c'est le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Alors qu'Israël a lancé aujourd'hui une offensive dans le sud de l'enclave, à Rafah, les habitants appelés à évacuer leur quartier qui abrite, selon l'armée israélienne, des organisations terroristes. Israël qui persiste avec le soutien des États-Unis dans sa politique de vider la bande de Gaza. Ce dimanche, le ministère de la Défense a annoncé la création d'une administration spéciale chargée de faciliter leur départ volontaire vers d'autres pays. Une décision dénoncée par une ONG israélienne anti-colonisation. Elle affirme qu'avec cette nouvelle administration, Israël reconnaît commettre des crimes de guerre à Gaza. RFI 22h et presque 4 minutes à Istanbul. Le maire de la plus grande ville de Turquie envoyé en prison pour corruption. Ekrem İmamoğlu a aussi été suspendu de ses fonctions. L'opposant bête noire du président Erdogan a été arrêté mercredi, déclenchant une vague de manifestations monstres dans le pays. Contestation inédite depuis l'éphémère mouvement de contestation de Gezi en 2013. L'actuel mouvement en Turquie peut-il durer? Max Valentin Robert est docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Il était l'invité de RFI à la mi-journée avec Charlotte Idrac.
Je pense que ça peut durer, surtout qu'on est dans un climat économique et social bien plus délétère qu'il y a quelques années. On fait souvent la comparaison avec le mouvement de Gezi. Entre-temps, la situation économique s'est fortement dégradée, notamment pour les jeunes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que contrairement à Gezi, ce mouvement de protestation semble avoir une base sociale plus large. C'est-à-dire que Gezi réunissait essentiellement des protestataires dans les milieux urbains et dans les milieux étudiants, alors que dans les protestations actuelles semblent réunir une base sociologique plus large. Par exemple, il y a eu des mobilisations d'agriculteurs à Konya, Konya, qui pourtant est connu pour être un fief de l'AKP et de la droite religieuse plus généralement depuis les années 70. Ce qui pose question sur le fait que ce mouvement s'essoufflerait. Il y a effectivement un climat économique et social qui alimente cette protestation, et cette protestation semble réunir des segments assez divers de la population.
Le CHP parle de millions d'électeurs ce dimanche dans tout le pays. Malgré le climat de répression, le parti d'opposition d'Ekrem Imamoglu tenait une primaire en vue de l'élection présidentielle de 2028. Seul candidat, le maire d'Istanbul, incarcéré donc depuis aujourd'hui. En Arabie Saoudite, les discussions entre Américains et Ukrainiens ont débuté. Elles portent sur une trêve limitée dans le conflit avec la Russie, un arrêt provisoire des frappes sur les installations énergétiques, largement endommagées côté ukrainien après plus de 3 ans de guerre de haute intensité. Demain, ce sera au tour de la délégation russe de négocier avec les Américains. L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, dit s'attendre à de vrais progrès, mais du côté de Moscou, on est moins optimiste. Les discussions seront difficiles, à juger le Kremlin. Et puis au Canada, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, le nouveau Premier ministre Mark Carney annonce des législatives anticipées. Elles se tiendront le 28 avril. Je demande aux Canadiens un mandat fort pour faire face à Donald Trump, a déclaré le remplaçant de Justin Trudeau. Shakira est à Mexico pour une série de concerts, de quoi réjouir les fans de la star colombienne, mais aussi le commerce local. Près d'un demi-million de personnes sont attendues pour voir la chanteuse. Des perspectives économiques importantes, notamment pour le secteur de l'hôtellerie, Charlotte Cossé.
Quatre 150 000 personnes devraient venir assister au concert de Shakira, des retombées économiques évaluées à 160 millions de dollars par la Chambre nationale de commerce. La moitié correspond à la billetterie. Viennent ensuite les dépenses de ses fans dans les logements, la restauration et les différents commerces. L'industrie du concert est particulièrement développée dans la capitale mexicaine. En plus d'un public très réceptif, la ville dispose d'infrastructures adaptées. Parmi elles, le stade René Peseguros, très populaire, est situé aux abords du circuit de Formule 1. Il accueille concerts et festivals où se produisent de grands noms. Son chiffre d'affaires a frôlé les 145 millions de dollars l'année passée pour 1,5 million de billets vendus. Et si la chanson prend, c'est aussi une question de volonté politique et de culture. Avec par exemple la vente de forfaits qui inclut transport et billets d'entrée, la ville de Mexico est également très dynamique dans le domaine. Elle finance régulièrement d'immenses concerts gratuits.
Et encore 5 concerts à Mexico pour ce marathon de Shakira. Ils se tiennent tous au stade GNP Seguros. Mais nous, on file maintenant à Paris, au Stade de France. Les Bleus qui reçoivent ce soir la Croatie en quart de finale, retour de la Ligue des Nations. Opération remontada après une première manche perdue 2-0. Victor Missistrano, vous êtes au Stade de France. Victor, après la déconvenue et le niveau de jeu inquiétant montré en Croatie, les Bleus vont devoir se reprendre devant leur public pour espérer accéder aux demi-finales.
Effectivement, se reprendre et mettre un peu de folie, disait hier Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain, qui a lancé un appel au public pour enflammer ce match. Un public qui attend beaucoup mieux de sa sélection, car de la folie, cette équipe de France en a cruellement manqué jeudi, secoué par la bande de Luka Modric, le Ballon d'Or 2018 épatant à bientôt 40 ans et qui fêtera ce soir sa 186e sélection. Pour se rattraper, les Bleus vont devoir soigner l'entame de match, ne pas reproduire cette première mi-temps catastrophique et si possible marquer rapidement. Le sélectionneur Didier Deschamps a donc décidé d'aligner un quatrième joueur offensif dans son 11 titulaire en la personne du jeune Michael Olise, aux côtés de Bradley Barcola et d'un duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé qui a déçu jeudi. Alors c'est un vrai défi qui attend les Bleus ce soir et c'est ce qui donne de l'intérêt à cette soirée dans un Stade de France quasi plein. Remonter un retard de 2 buts face à un cador du football mondial, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. La prochaine, c'est dans 18 mois. Alors rejoindre le dernier carré de cette Ligue des Nations, certes peu prestigieuse, ce serait préférable pour mieux se préparer.
Merci Victor Missistrano en direct du Stade de France pour France-Croatie. Coup d'envoi 19h45, temps universel. Même heure pour Allemagne-Italie. La Mannschaft victorieuse 2-1 à l'aller. Les Néerlandais se déplacent en Espagne après un match nul. Enfin, les Danois qui l'avaient emporté 1-0 à l'aller auront fort à faire au Portugal face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo.